Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, plus d'un Haïtien sur trois a besoin d'une aide alimentaire urgente. Le PAM tire la sonnette d'alarme. Zone de libre-échange continentale africaine, source d'espoir pour les jeunes en quête d'emploi. Nous marquons le dernier jour de la semaine consacrée à la police de la paix de l'ONU. Et en dossier, l'ONU appelle à rapatrier les enfants nés de ressortissants belges, encore présents dans des zones de conflit en Irak et en Syrie. Plus d'un Haïtien sur trois est dans une situation d'insécurité alimentaire et a besoin d'une aide urgente pour faire face à ses besoins alimentaires quotidiens. Le Programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi. Selon le PAM, les zones les plus touchées étaient le sud du département du Nord-Ouest et les quartiers de Cité-Soleil à Port-au-Prince, la capitale. Pour avoir plus de détails, on écoute Hervé Verroussel, porte-parole du PAM.
Il faut savoir qu'en Haïti, la hausse des prix, les troubles socio-économiques, la baisse de la production agricole ont entraîné une augmentation de l'insécurité alimentaire cette année. Et donc 3,7 millions de personnes se trouvent dans l'insécurité alimentaire, plus d'un million de personnes en phase 4, donc c'est la phase d'urgence. Pour un pays comme Haïti qui en compte 11 millions, c'est quelque chose qui est très important. L'insécurité alimentaire dans les zones rurales a augmenté de 15% depuis décembre de l'année dernière. Cette détérioration de la situation nous a ralenti dans nos efforts et dans les efforts de différentes organisations humanitaires pour atteindre les personnes dans le besoin depuis plus ou moins 7 semaines. Le programme alimentaire scolaire du PAM a été gravement touché. Les repas distribués à l'école pour les plus pauvres sont souvent le repas principal des enfants. Et de nombreuses livraisons dans les écoles ont été reportées jusqu'au moment où la situation sécuritaire est meilleure. Le PAM est prêt, vu la situation, à mettre en place des opérations de transport aérien et maritime afin de fournir des services de transport fiables pour l'ensemble des humanitaires dans le pays. Mais pour cela, nous aurions besoin d'un petit peu moins de 3 millions de dollars, mais c'est une demande de certains humanitaires de les aider au niveau logistique à ce niveau-là. Nous sommes également prêts à intensifier nos opérations d'assistance alimentaire, mais ce, bien sûr, à condition que les fonds soient disponibles et que les conditions logistiques et sécuritaires le permettent.
L'Afrique de l'Est est la sous-région du continent africain la plus dynamique en termes de croissance économique. C'est ce qu'a souligné cette semaine Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, lors d'une réunion régionale de la Commission à Asmara, en Érythrée. Un dynamisme économique régional qui peut bénéficier aux jeunes en quête d'emploi, notamment grâce à la ZLECAF, la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine. On écoute Vera Songwe.
Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est a une population d'à peu près 420 millions de personnes. Elle a une économie de 880 000 milliards de produits intérieurs bruts. C'est la partie de l'Afrique qui croît le plus rapidement. Et nous pensons aujourd'hui qu'avec la ZLECAF, donc la zone de libre-échange économique continentale africaine, nous pouvons trouver du travail pour au moins 2 millions de jeunes qui cherchent de l'emploi. Cette sous-région a besoin de créer au moins 8,5 millions d'emplois par an. Et nous croyons qu'avec la ZLECAF, donc la zone de libre-échange économique continentale africaine, nous pouvons créer encore davantage d'emplois, mais surtout générer une économie prospère et un peu plus équitable pour la région.
Fin ce vendredi à New York de la semaine consacrée à la police des Nations Unies, des forces de police composantes essentielles des opérations de maintien de la paix sur le terrain. À l'instar du Mali, où comme l'explique Issoufou Yacouba, le chef de la police de la MINUSMA, les défis sont encore nombreux en raison de l'étendue du territoire, mais aussi de la lenteur du processus de réforme du secteur de la sécurité. Des difficultés à gérer les frontières et des problèmes de financement des capacités des forces de sécurité. D'où le choix résolu de l'ONU de favoriser le concept de police de proximité en vue d'établir des partenariats stratégiques fondés sur la concertation préalable et l'inclusion des communautés. Issoufou Yacouba.
Un des critères pour nous, c'est d'abord que nous ayons des forces qui sont acceptées par les populations. D'abord un, et l'exploitation, c'est-à-dire qu'à travers ce qu'on entend de mettre la police de proximité, c'est une sécurité de proximité. Vous voulez qu'il y ait l'alerte précoce, vous voulez que les gens fassent confiance, mais soyez à côté, pas des dizaines ou des centaines de kilomètres. Là, les gens ne vous croiront pas, parce que le problème que nous avons est que ce que les populations nous reprochent, c'est d'arriver comme le médecin après la mort. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens pensent que nous sommes inefficaces. Donc, c'est ce qu'il faut travailler à mettre en place un système d'alerte pour qu'il y ait plus de réactivité. Et maintenant, chaque composante de la population sera un point focal. Ils ont des points focaux, ceux qui sont dans les domaines de l'éducation, du transport. Donc tous les groupes thématiques auront des points focaux sous la houlette des maires, des commandants de cercle, jusqu'à arriver au niveau central. Donc c'est vraiment développer la résilience à la base. Donc faire en sorte qu'il y ait le rapprochement entre les populations et les forces de sécurité.
Le comité des droits de l'homme est préoccupé par le nombre d'enfants nés de ressortissants belges soupçonnés d'actes de terrorisme ou crimes de guerre qui se trouvent dans les zones de conflit, notamment en Syrie. Il appelle la Belgique à rapatrier ses enfants piégés dans des camps de déplacés internes. Selon l'UNICEF, près de 28 000 enfants originaires d'une soixantaine de pays sont dans cette situation. On écoute Fotini Pazartis, vice-présidente du Comité des droits de l'homme de l'ONU, au micro d'Alpha Diallo.
Nous avons discuté avec l'État, généralement sur sa législation, mais ses pratiques surtout en matière relative à la lutte contre le terrorisme. Parce que pour nous, il s'agit d'évaluer la compatibilité de la législation et des pratiques par rapport au pacte des droits civils et politiques. Donc c'est dans ce cadre général qu'on a discuté, on a dialogué avec l'État sur ces problèmes. Notamment sur le fait, parmi ces problèmes, comme je vous ai dit pendant notre discours ici, sur le fait qu'il y aurait des enfants de combattants qui ont une nationalité belge, qui se trouvent en pays tiers, et le problème est de les repatrier dans des conditions qui protègent la sûreté des enfants, n'est-ce pas ? Donc, dans ce grand cadre, il y avait des questions plus précises, notamment par rapport à ce sujet.
Justement, vous vous êtes préoccupé par le nombre des enfants nés de ressortissants belges qui se trouvent dans des zones de conflit. Est-ce que vous aviez une idée de ce nombre d'enfants ?
L'État parti ne nous a pas donné de nombre précis. On a de nombres qui proviennent des rapports. Donc, nous tenons compte, par exemple, des rapports qui proviennent des ONG ou des Nations Unies. Donc, je ne vais pas vous dire un nombre précis. Le problème est que, la question, notre préoccupation est que la Belgique a commencé la négociation pour le rapatriement des ressortissants belges, mais aussi des enfants, de leurs enfants. Et le comité a cru devoir dire à l'État parti, suggérer à l'État parti qu'il faut vraiment faciliter pour ce qui concerne les enfants, qu'ils soient par ailleurs de nationalité belge ou pas sûrs. Hein, c'est ça le problème, de les rapatrier quand même dans des conditions favorables à leur sûreté en Belgique.
Et qu'en est-il du retard dans le rapatriement de tous ces enfants de combattants étrangers belges dans ces zones de conflit?
On sait que la Belgique est quand même dans des négociations. Donc on sait que ce rapatriement a commencé déjà. Donc pour nous, il s'agit un peu de voir l'État parti, dans la mesure du possible, accélérer ce rapatriement, notamment s'agissant des mineurs qui sont souvent dans une situation précaire.
Au-delà des enfants, il y a le fait aussi que des ressortissants belges soupçonnés d'actes de terrorisme ou de crime qui risquent d'être jugés dans des pays tiers, c'est un risque ?
Cela est vrai, c'est un risque. Nous avons aussi discuté pendant le dialogue de ce risque avec l'État parti. Et je dois dire qu'on a recommandé à l'État parti, vous permettez un peu de voir mes notes, ce qu'on a recommandé à l'État parti, ce qu'on peut recommander à l'État parti, on l'a fait, c'est de faire les efforts nécessaires pour garantir que toute personne qui est soupçonnée d'actes de terrorisme, d'autres actes de cette sorte, soit poursuivie en justice, mais conformément aux droits tels qu'ils sont reconnus au pacte.
Dernière question, que vous ont répondu les autorités belges quand vous les avez interpellés par rapport au fait que certains ont risqué d'échoir la nationalité de certaines populations qui se trouvent présentement en Syrie ou en Irak?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recommandé à la Belgique de voir l'application de la législation concernant l'octroi au moins d'un permis de résidence aux personnes qui pourraient se trouver sans nationalité pour éviter d'avoir un lapsus, un gap, si vous voulez, dans leur protection.
Et quelle a été la réponse?
Ils ont été assez positifs. Ils ont dit que déjà, ils ont quand même prévoit dans leur législation la possibilité d'octroyer des permis de résidence comme au moins temporaire jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.